Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaine nouvelle ?
Nouvelle vilaine.
Vilaine nouvelle.
Nouvelle vilaine. Nouvelle vilaine. Vilaine nouvelle. Nouvelle vilaine. Histoire. Eh bien, bonjour. Nous allons donc retrouver nos Indiens des plaines américaines et étudier comme ça leur vie quotidienne. Une des tâches essentielles des Indiennes des plaines consistait à préparer les pots. Les objets et articles confectionnés à l'aide de peaux de bison, mais aussi de wapiti, de daim, d'antilope et de moindres gibiers, constituaient la grande majorité des biens d'une tribu. L'Indienne procédait aux premières opérations du tannage sitôt la chasse terminée. Elle étalait à même le sol la peau fraîche, côté fourrure ou poil en dessous, et la fixait en terre. Elle enlevait d'abord la chair à l'aide d'un grattoir, un genre d'herminette, dont la lame était souvent ligaturée à une poignée faite d'un andouillet de wapiti. Objet précieux, le grattoir se repassait de mère en fille et de génération en génération quand il était de qualité. Pour achever ce nettoyage, l'Indienne utilisait un grattoir en pierre. Si cette peau devait servir l'hiver, l'Indienne laissait les poils. Par contre, elle les enlevait lorsque la peau était destinée à un vêtement d'été ou à la confection d'un tipi. Le produit qui lui servait de tannant était composé d'un mélange de cervelle, de foie et de graisse de l'animal abattu. En fait, l'assouplissement de cette peau résultait plus de son étirage, de son triturage et de sa compression, grâce auquel le mélange tannant s'incorporait aux fibres et aux cellules, qu'à l'action proprement dite de cette mixture. Inlassablement, elle frottait la peau mise à cheval sur une corde tendue en cuir cru, en la faisant aller et venir, ou parfois en la faisant passer à travers un trou aménagé dans une omoplate de bison. Après le séchage, on fumait éventuellement la peau travaillée au-dessus d'un feu pour la rendre imperméable. Ce tannage demandait en général 6 jours de travail. Il ne s'agissait là que du début de l'ouvrage, car on découpait, puis on cousait la peau pour donner divers articles qu'on décorait ensuite de piquants de porc et pic, de perles ou d'autres ornements. Elle confectionnait aussi des paniers qui avaient de multiples emplois parmi les tribus de l'Ouest. La femme Paiute, par exemple, menait une existence précaire dans l'aride bassin. Il lui fallait tirer des objets utilitaires à partir des plantes pauvres du désert. Et cette tâche était aussi importante pour la survie familiale que les talents de son mari à la chasse ou au combat. Une grande variété de fibres végétales servait à tisser les paniers indiens. Les herbes, les bandes d'écorce, les feuilles des yuccas et les joncs des marais. Quoique très légères, une fois séchées, ces fibres étaient très résistantes. utilisant des formes et des motifs que chaque génération modifiait ou embellissait, la femme indienne tissait des plats sur lesquels elle servait divers aliments. La viande séchée, des baies, des racines, des sauterelles grillées. Avec la même technique, elle obtenait des sandales, des enveloppes de berceaux sur cadre et des plateaux pour faire rouler les dés. Les paniers pour conserver les céréales et les graines, qui pouvaient être récoltées qu'à une certaine saison, revêtaient une importance particulière. Des paniers de transport fixés par des courroies aux épaules des femmes lorsque la tribu n'avait pas assez de chevaux contenaient des objets de première nécessité tels que la literie, des outils et des mocassins. Parfois, ces objets étaient purement utilitaires. Pour parvenir à transformer ces tiges de saule et ces fibres de griffes du diable et en obtenir un panier semblable, cela exigeait de 2 à 4 mois de travail. Le mode de vie des Indiens semblait dominé par la religion. Quelques années après la réunion à Oropont du Grand Conseil de la Paix, un certain Eagle Chef, Chef Aigle, un des meneurs de la bande Skitty des Pawnee, se trouvait présent au campement de la Platte lorsqu'un groupe de guerriers rentra d'une expédition. Ces hommes revenaient avec plusieurs prisonniers capturés au cours d'une attaque dirigée contre une tribu voisine. À l'exception d'un seul, tous les captifs furent rapidement adoptés par les Pawnees, vivant librement dans le village. Le captif restant se voyait attribuer un autre destin. Il devait être sacrifié à Tirawa, le principal dieu des Pawnees. Dans l'espoir que ce dieu accorderait ses faveurs à la tribu. Tirawa serait certainement content puisque le captif était jeune, solide et resplendissant de santé. Avant le sacrifice, on traita le prisonnier avec déférence et on lui servit des mets de choix. Les femmes qui venaient à tour de rôle partager son repas disaient en le quittant « J'espère que Tirawa me bénira, qu'il me prendra en pitié et que, quand je mettrai mes graines dans le sol, elles pousseront bien et que j'aurai toutes choses en abondance. » Quelques années plus tard, Eagle Chief évoqua l'instant suprême de ce crime rituel dans un récit dont l'extrait qui suit a été tiré. Au terme du 4e jour, 2 hommes âgés se rendirent chacun à un bout du village et ordonnèrent à tous ses habitants mâles de fabriquer un arc et une flèche. On confectionna ainsi un arc et une flèche pour chaque garçon. Les petits enfants eurent droit à des arcs miniatures qu'ils étaient capables de bander et à de petites flèches. Avant l'aube du jour suivant, tout le monde fut prêt. Chaque homme portait son arc et sa flèche, chaque femme une lance ou un bâton. Ils se rassemblèrent à l'ouest du village et attendirent qu'on leur amenât le prisonnier. On avait dressé en cet endroit 2 grands poteaux et 4 perches en bois en croix qui les barraient. À l'aube, les guerriers entraînèrent le captif qui était nu et lui lièrent la main gauche, puis la main droite aux perches supérieures. Ensuite, ils attachèrent les pieds à l'aplomb. Silencieux, chacun regardait et attendait. Les hommes apprêtèrent leurs armes. Ce Sur le sol, on avait disposé du bois pour un grand bûcher et on y avait mis le feu. Un guerrier, celui-là même qui avait pris le captif, courut jusqu'au prisonnier et le transperça de part en part d'une flèche sacrée comportant comme autrefois une pointe de silex. Le sang coula sur le feu en contrebas. Puis, à un signal donné, tous les hommes s'élancèrent et décochèrent chacun leur flèche dans le corps du supplicié. Si un enfant n'était pas en âge de tirer, quelqu'un lançait la flèche à sa place. Il y avait tant de flèches que la victime en était toute hérissée. Désigné à cet effet, un homme s'approcha et retira toutes les flèches, à l'exception de celle qui, la première, avait transpercé la victime. Après les avoir ôtées, il prit son couteau, puis, entaillant la poitrine du prisonnier, plongea une main dans l'ouverture et se barbouilla le visage de sang. Ceci fait, les femmes s'approchèrent à leur tour et avec leurs lances et leurs bâtons se mirent à taper sur le corps tout en comptant les coups. Cependant, les flammes montaient du bûcher et commençaient à brûler le corps. On attisa le feu jusqu'à ce que le cadavre fût consommé. Tandis que la fumée issue du sang et du corps en cendres montait à l'assaut des nus, les Indiens priaient Tirawa. Alors, s'avançant près du bûcher, ils prenaient des poignées de cendres, s'en frottaient le corps et ceux de leurs enfants tout en suppliant Tirawa de s'apitoyer sur leur sort, de leur donner la santé, des succès à la guerre et de bonnes récoltes. L'homme qui avait tué le captif prit le deuil et jeûna pendant 4 jours. Il demanda à Tirawa d'avoir pitié de lui car il savait qu'il avait pris la vie d'un être humain. Et Chef Eagle conclut son récit sur cette remarque. Ce sacrifice semblait plaire à Tirawa et quand les Sikhs l'accomplissaient, apparemment, ils avaient toujours plus de succès au combat. Ils jouissaient d'une bonne santé et de riches récoltes. Ce sacrifice par lequel les Sikhs offraient aux dieux un jeune captif, ou le plus souvent une vierge capturée dans les rangs d'une autre tribu, constituait une manifestation de violence particulière par rapport aux coutumes religieuses des Indiens des plaines. Cependant, nombreuses étaient les tribus aux mœurs barbares et cruelles aux yeux des Blancs. Pour les Indiens, ces actes étaient tout naturels et leur permettaient d'éviter des catastrophes et de maintenir leur bien-être. Les gens des plaines, certes, avaient su s'adapter d'une façon ingénieuse à un milieu hostile et faire preuve d'une volonté de fer, mais leur existence quotidienne demeurait souvent incertaine. Ils étaient à la merci des caprices du climat et dépendaient de l'abondance ou de la carence du gibier et des plantes. La famine, les épidémies et les rôdeurs ne leur étaient pas étrangers. Pour survivre dans un tel univers, les Indiens ressentaient le besoin de disposer d'un puissant secours surnaturel. Ils le trouvaient auprès d'une foule d'esprits qui hantaient le monde où ils vivaient. Ceux-ci étaient présents partout et pouvaient s'identifier à des objets visibles, à des animaux ou à des phénomènes de la nature. Ils habitaient, disait-on, le soleil et la terre, les rivières et les collines, le tonnerre et l'arc-en-ciel, ainsi que tous les genres de créatures, depuis la libellule jusqu'au bison. Ces êtres sacrés avaient le pouvoir de rendre fructueuse une partie de la chasse, une guerre, de protéger aussi les jeunes, de guérir les malades, d'assurer la fertilité et, en règle générale, de garantir le bien-être de la tribu ou le succès des individus dans quelque domaine que ce fût. Ces bienfaits n'étaient prodigués aux humains que si ceux-ci accomplissaient en permanence les rites des cérémonies visant à obtenir les secours des puissances naturelles qui régissaient et forgeaient l'univers. Les rites religieux des Indiens pouvaient prendre de multiples formes. Certains tenaient du simple geste de respect. Ainsi, par exemple, la pache qui dépouillait un cerf tournait-il la tête de l'animal vers l'est. En effet, considérée comme sacrée, cette direction était celle où se levait le soleil, dispensateur de vie, et d'où viendraient de nouvelles forces dont bénéficierait une autre proie. Si un Comanche s'asseyait, par exemple, pour prendre un repas, il lui arrivait souvent de couper un petit morceau d'aliment, de l'élever vers quelques divinités célestes en offrande symbolique, et puis de l'enterrer. Bien plus complexe, plus exigeante aussi, certaines grandes cérémonies, comme celle du sacrifice humain des Pawnee, étaient censées contribuer au bien-être de tout le village. Ces cérémonies intervenaient à des dates variables, par exemple lorsque les bandes d'une tribu s'assemblaient pour participer, ne fût-ce qu'en simple spectateur, à des rites comprenant des centaines d'opérations successives et demandant parfois une semaine entière. Il était très important que chaque stade différent fût exécuté sans défaut, sinon l'esprit serait mécontent et la cérémonie n'aurait pas l'effet compté. La danse animale, ou masom, était une succession de rites particulièrement complexes que les Cheyennes exécutaient à quelques années d'intervalle pour s'assurer la fertilité continue de la terre. Tout d'abord, on abattait un jeune pamplier d'environ 8 mètres de haut et on le dépouillait de ses branches, à l'exception d'un peu de feuillage à son sommet, de façon à ce que, conformément aux mots de la prière qui accompagnait cette cérémonie, tous les arbres, les plantes et les fruits puissent prospérer et devenir forts. L'homme qui procédait à l'élagage exécutait un rite bien spécial. Il faisait semblant de donner 3 coups de hache et arrêtait l'outil à courte distance du tronc de l'arbre, puis il lançait sa cognée une 4e fois, car le nombre 4 avait une signification symbolique et faisait référence aux points cardinaux. Les femmes, alors, terminaient la coupe tout en spalmodiant un air éthéré, rappelant le vent dans les branches. Une fois abattu, l'arbre était transporté jusqu'au village, puis le tronc dressé au centre d'une vaste loge devant servir de cadre à la majeure partie des cérémonies. Dès lors, le rite se déroulait suivant des prescriptions très strictes. Ainsi, le feu ne pouvait consumer ni pain, ni cèdre, bois qui était considéré comme tabou. Lorsqu'une femme apportait un crâne de bison sacré dans la loge, elle devait faire 3 fausses entrées et ne pénétrer dans la hutte qu'à la 4e tentative. Entre-temps, certains participants chantaient 4 chansons. Et à un certain stade, le rituel voulait qu'une peau de loup fût peinte conformément à une séquence précise des opérations. Il fallait en l'occurrence commencer par la patte avant gauche, passer ensuite à la patte avant droite, continuer par la hanche droite jusqu'à l'épaule gauche, terminer par la hanche gauche jusqu'à l'épaule droite, et ainsi de suite. Ces processus, aussi solennels qu'épuisants, conduisait au joyeux climat du cinquième jour. Lors de cet apogée, les hommes se paraient de peaux et de fourrures de diverses bêtes, de bisons, d'élans, de renards, d'ours, de pumas, d'antilopes, de coyotes et bien d'autres. Ils dansaient en imitant l'animal représenté à grand renfort de piaffements, de coudons, de piétinements. Les membres de la Société des Contraires leur donnaient la chasse. Ils formaient un groupe spécial, apparenté, disait-on, à l'esprit du tonnerre, et n'agissaient principalement que dans un esprit comique. Les chasseurs de la Société des Contraires faisaient tout à l'envers. Ils tenaient leur arc son dessus-dessous, couraient à reculons et exécutaient toutes sortes de pitreries qui réjouissaient l'auditoire. Une fois la cérémonie terminée, les gens de la tribu étaient prêts à se lancer sur la piste des bisons, convaincus d'obtenir une chasse fructueuse. Les Cheyennes comptaient dans leur rituel une autre grande cérémonie, le renouvellement des flèches. Ces fêtes duraient 4 jours et leur permettaient de renouveler le pouvoir de leurs armes lorsque l'unité ou la vie de la tribu se trouvait menacée. Tel était le cas lorsque les vivres venaient à manquer ou que la guerre avait conduit à une défaite. Cette cérémonie concernait 4 flèches sacrées. 2 avait-on, enfin croyait-on plus exactement, avaient des pouvoirs magiques sur les hommes, et les autres des pouvoirs particuliers sur les bisons. Ces 4 flèches avaient été données à la tribu voici fort longtemps par un héros du nom de Douce Médecine. Lorsque se pratiquait ce renouvellement des flèches, comme pour toutes les grandes cérémonies, on devait suivre à la lettre les rites prescrits pour les diverses étapes, et chaque membre de la tribu était tenu de se conformer à des règles strictes. Le campement était aussi solennel que silencieux. On n'entendait que les prières, les chants et les sons du tambour venant d'une loge sacrée. Les femmes et les enfants restaient à l'intérieur de leur tipi. Les travaux habituels étaient réduits au minimum. Les membres d'une société de guerriers patrouillaient dans le campement pour maintenir l'atmosphère voulue. Si quelque chien se mettait à aboyer ou à gémir, on lui fendait le crâne d'un coup de casse-tête. La phase essentielle du rite se déroulait au second jour, lorsqu'on ouvrait le ballot en peau de bison dans lequel on conservait les flèches. Si les empennages n'étaient pas en parfait état, on désignait pour les préparer un homme de haut renom, en bonne santé, jovial et brave. Le 3e jour, les chefs de la cérémonie préparaient les baguettes à encoches en bois de saule, représentant chaque famille vivant au campement Cheyenne, à l'exception de celles qui comptaient en leur sein un meurtrier d'un autre Cheyenne. Ils passaient ensuite chacune de ces baguettes dans la fumée sacrée d'un feu d'herbe odoriférante, et de la sorte bénissaient chaque famille individuellement. Le 4e jour, les flèches sacrées étaient exposées à la vue de tout Cheyenne mâle, puis le grand-père le plus âgé jusqu'au bambin nouveau-né. Chez certaines tribus, pour obtenir l'aide des esprits, on s'adressait tout particulièrement à une puissance considérée comme la plus importante, en tout cas plus importante que les autres. Aux yeux des Cheyennes, l'esprit principal, le sage d'en haut, représenté par le soleil, était toutefois plus puissant que ce dernier et avait la suprématie parce qu'il avait plus de connaissances que n'importe qui sur le fonctionnement du mécanisme de la nature. Il existait aussi un esprit contraire sous la forme du sage d'en bas. Ces deux sages ne représentaient pas le bien et le mal, mais des puissances qui résidaient, croyait-on, dans deux directions opposées. Le sage d'en haut possédait un grand oiseau, le tonnerre, qui commandait aux pluies estivales et combattait les nimios, ces monstres aquatiques des lacs et des rivières. Si un Cheyenne était pris par un nimio, il pouvait éventuellement être secouru par le tonnerre. Il y avait aussi les Mistai, ces fantômes qui effrayaient les gens en faisant du bruit et en tiraillant les couvertures dans l'obscurité. Ils différaient des âmes humaines, de ces esprits appelés Tansum, qui quittaient le corps à la mort et suivaient le chemin suspendu représenté par la Voie lactée pour aller vivre dans les terres appartenant aux sages d'en haut. La vie de l'au-delà ressemblait beaucoup à l'existence terrestre. Les gens vivaient dans des campements, guerroyaient, chassaient et vaquaient à des occupations habituelles. Cet univers ne comportait ni condamnation, ni jugement dernier, et le défunt pouvait normalement l'atteindre, à moins qu'il ne se fût suicidé. Délivré de toute appréhension résultant de la mort, les religions indiennes pouvaient donc se concentrer uniquement sur l'obtention de bonne fortune face aux rudes tâches quotidiennes de la vie dans les plaines. « Nous savons bien que nous sommes là », commentait un vieux Comanche. « Aussi, nos pensées sont-elles principalement tendues vers la compréhension des esprits ?» Les plus utiles de ces esprits aux yeux des Indiens des plaines et les plus communément invoqués habitaient les animaux. Le wapiti mâle, par exemple, était considéré comme un puissant secours en amour. En effet, les Indiens étaient très impressionnés par l'aptitude de l'élan à rameuter les femelles. Difficile à tuer, l'ours était censé pouvoir panser ses propres blessures, et les Indiens en déduisaient qu'il pouvait aussi guérir les humains. Les aigles et les rapaces aux serres puissantes ne devaient pas être négligés en temps de guerre. Au putois d'Amérique, on attribuait des dons surnaturels. La queue d'un putois avait la réputation d'être une médecine et on l'attachait en temps de guerre à la queue des chevaux. On retrouvait souvent son effigie dessinée sur les tentes ainsi que sur les graines utilisées par les femmes pour les jeux de hasard. Dans certaines tribus du sud-ouest, les Indiens Pueblo considéraient que le crotal avait le pouvoir de dispenser la pluie. Au printemps, les Pueblo s'égayaient aux quatre coins cardinaux pour capturer quelques serpents à son être vivant. Et au cours de la cérémonie qui suivait, les hommes dansaient par paires, l'un tenant le reptile entre ses dents, l'autre le frappant d'une plume pour que la bête ne mordît pas. La plume avait un effet hypnotique et évitait les morsures sérieuses. Après la danse, les Pueblo rapportaient leurs hôtes dans les quatre directions et les disposaient gentiment à terre dans l'espoir qu'ils accompliraient leurs obligations et feraient pleuvoir. Le blaireau, lui, aidait à prévoir l'avenir. Lorsqu'un groupe de Cheyennes s'apprêtait à prendre le chemin de la guerre, les guerriers tuaient parfois un blaireau, lui ouvrait le ventre pour lui ôter les entrailles et laissait la carcasse couchée sur le dos dans un lit de sauge pendant toute la nuit pour que le sang s'amassât dans la cavité abdominale. Le lendemain, nu et la chevelure dénatée, les hommes passaient près de l'animal et fixaient le sang, lequel agissait un peu à la mémoire, à la façon d'un miroir terni. Qu'un homme s'aperçût avec des rides et des cheveux blancs, c'était le signe qu'il vivrait jusqu'à un âge avancé. Qu'il se vit sans son scalp et la tête ensanglantée, le mauvais présage l'amenait à faire demi-tour et à renoncer à prendre part à la guerre. Le grillon aussi avait son utilité en matière de divination. Le chef d'un groupe appelé à chasser le bison en ramassait un dans sa main, attendait que l'insecte fût calmé, puis notait soigneusement la direction prise par les antennes. Normalement, on devait trouver les bisons de ce côté-là. Lorsqu'il chassait, les Comanches faisaient appel à d'autres animaux. Ils demandaient aux crapauds cornus de leur indiquer la bonne direction. Leur croyance voulait que l'animal courût droit vers les bisons. Le corbeau, qui faisait quatre fois le tour du campement, puis s'éloignait en croassant, aidait ses amis indiens à se procurer de la viande en volant en direction des bisons. Dans chaque tribu, certains individus étaient considérés comme ayant des pouvoirs surnaturels pour communiquer avec les esprits. La plupart des grandes cérémonies tribales, comme le sacrifice humain des Pawnees et le renouvellement des flèches chez les Cheyennes, étaient dirigées par des chefs bien entraînés à ces questions religieuses, sorte de prêtres qui avaient fait un long apprentissage et qui gardait en mémoire les moindres détails des rites à accomplir. Le prêtre n'était pas l'intermédiaire direct des forces surnaturelles. Il se contentait de guider les participants dans le dédale des rites, et ceux-ci sollicitaient leurs aides spirituelles. Cependant, certains êtres prestigieux étaient reconnus comme détenteurs de puissantes forces surnaturelles. C'étaient les hommes médecine. Ce type d'homme existait également dans toutes les tribus de l'Ouest, mais il n'avait pas de statut ou de fonction bien défini d'une tribu à l'autre, ou même de génération en génération. Bien qu'il fût appelé quelquefois à jouer le rôle de prêtre dans des grandes circonstances tribales, l'homme médecine disposait de pouvoirs personnels auxquels les membres de la tribu pouvaient faire appel à tout moment pour leur bien. Il utilisait, par exemple, ses facultés pour prévoir l'avenir, fabriquer des charmes d'amour, retrouver des animaux perdus ou apporter le beau temps. Les femmes âgées et mariées disposaient souvent des mêmes dons. Certains hommes médecine faisait fonction de guérisseur auprès des membres de la tribu et parfois même se spécialisait dans les maladies du sang ou réparant les os cassés ou les blessures de guerre, par exemple. Le pouvoir spirituel d'un homme médecine résultait toujours d'un rêve ou d'un état de transe, généralement précédé d'une longue période de jeûne et de prière. Lors de ces visions, l'esprit, qui prenait la forme d'un ours ou d'un oiseau, remettait à l'intéressé des pouvoirs surnaturels et lui indiquait comment les utiliser. Bon nombre d'hommes médecine étaient très intelligents et savaient se montrer persuasifs. Leur rayonnement personnel leur permettait de convaincre les autres de la crédibilité et de la fiabilité de leur aide. En échange de leur service, les hommes médecine se faisaient éventuellement payer assez cher. Il en coûtait par exemple 2 poneys pour un cas difficile. Pour peu que les esprits soient inefficaces, la médecine de l'homme était considérée comme mauvaise et alors cela ne lui permettait plus de vivre. Certes, pour résoudre des problèmes sérieux, il pouvait être sage de s'adresser à un homme médecine. Mais toute personne était libre d'invoquer directement les forces surnaturelles pour obtenir telle ou telle faveur. Et pour peu qu'elle prît les bonnes mesures, sa démarche réussissait quelquefois. Une méthode pour obtenir une aide consistait à faire une offrande, une simple plume ou une belle fourrure que l'Indien adressait à une haute falaise, au vent du nord, au soleil ou au tonnerre, c'est-à-dire au lieu où les esprits résidaient généralement. En principe, chaque jeune Indien s'efforçait d'acquérir des pouvoirs correspondant à ses desseins. Une vision pouvait les lui assurer, comme dans le cas des hommes médecine. Le jeune homme allait s'isoler plusieurs jours sur une hauteur, jeûnait, se concentrait et tentait d'établir une relation entre sa personnalité et la nature. Si sa quête était positive, un esprit lui apparaissait en rêve et lui révélait l'existence d'objets et de dessins sacrés pouvant lui apporter une aide surnaturelle en cas de besoin. Le compte-rendu d'une de ces quêtes nous est connu par le détail. Il s'agit de la démarche spirituelle de Crazy Horse, un jeune Sioux, qui sera appelé par la suite à devenir l'un des guerriers les plus célèbres des plaines de l'Ouest. À cause de l'ondulation de ses cheveux, il était encore surnommé Bouclé à l'âge de 12 ans. Son père était homme médecine et s'appelait Crazy Horse. Sur la piste de l'Oregon, le jeune homme eut l'occasion d'assister à l'exécution par des soldats blancs d'un vieux chef Sioux du nom de Ours Conquérant. Ce meurtre était d'ailleurs disproportionné avec le motif. Le motif, c'était la perte d'une vache par des immigrants. La vue de ce chef mourant frappa sans doute le garçon. Il quitta son campement et se réfugia sur une haute falaise pierreuse. Il jeûna, plaça des cailloux pointus entre ses doigts de pied et des galets sous son corps pour rester éveillé. Tout un jour et toute une nuit. Il arpenta cette position élevée en quête de champs. Mais il était à court d'imagination. Ses yeux le brûlaient. Le second jour, il attendit la manifestation d'un esprit ou quelques messages, tout en s'estimant trop jeune et indigne. Il persista le surlendemain, et ce jour-là, il eut le malheur de tomber malade et de ressentir des vertiges. Il essaya de retrouver le lieu où il avait entravé son poney, mais il n'y parvint pas. Le délire le terrassa. Un homme survint, chevauchant d'une façon aérienne une monture baie, puis un cheval de bataille tacheté de jaune, flottant dans la brume. Des flèches et des balles convergeaient sur cette figure de rêve sans l'atteindre. Un orage suivit, avec ses gros nuages sombres et ses coups de tonnerre. Le cavalier traversait la violente tempête. Sur ses joues étaient peints des zigzags de la foule. Son corps portait les marques de la grêle. Au-dessus de sa tête planait un petit faucon. Les gens de son peuple l'entourèrent et dans une vaste rumeur tendirent leurs mains vers lui. Cette vision présentait un côté étrange, car le jeune homme savait exactement ce que pensait le cavalier. Un mélange de fierté et d'angoisse non formulée le dévorait. Le dormeur se réveilla tout à coup. Son père et un autre homme était penché sur lui et le secouait avec colère. Ils étaient à sa recherche. Mais quelle idée stupide d'aller se cacher ainsi tout seul, alors que nul ne savait s'il était tombé entre les mains des ponies, des crocs ou des soldats blancs. À quelques années de là, alors que le garçon était devenu jeune homme, son père, le vieux Crazy Horse, l'entraîna pour discuter de la religion des Sioux et des responsabilités qu'on acquérait en devenant homme. Pour la première fois, le jeune Indien évoqua sa vision. Son père se montra assez surpris, mais ne mit pas en doute le fait que la personne aperçue dans le rêve n'était autre que le jeune bouclé lui-même. Alors, le vieil homme donna son propre nom à son fils. Et grâce au haut fait de ce guerrier, ce nom ne devait jamais s'effacer de la mémoire des Sioux. En temps de guerre, il faisait appel aux puissances surnaturelles que lui avait révélé ce songe. Et il se peignait le corps au signe de la grêle et de la foudre. Dans sa chevelure, il portait la dépouille d'un faucon, son protecteur surnaturel. Des puissances individuelles de cette nature, quoique initialement recherchées par un individu, étaient transmissibles. Ainsi, en accordant son propre nom, le vieux Crazy Horse avait pu insuffler à son fils une partie de ses pouvoirs. De même, un guerrier qui avait eu de grands succès pouvait vendre à un autre homme le symbole de son pouvoir, une aile d'oiseau, ou bien tout un ballot d'objets médecine. Qu'ils fussent le fruit d'une vision ou qu'on les ait achetés, ces pouvoirs surnaturels issus des esprits étaient limités par des tabous qui, lorsqu'on les violait, rendaient inefficace l'aide qu'ils comportaient. Le détenteur d'un de ces pouvoirs devait bien souvent s'abstenir de consommer certains mets, les entrailles ou la cervelle du bison par exemple. L'homme qui avait comme protecteur un aigle ne permettait pas à un autre Indien de passer derrière lui lorsqu'il mangeait, car les Indiens imaginaient qu'un tel acte aurait dérangé l'oiseau de proie lui-même. Les pouvoirs surnaturels devaient être en outre protégés contre l'action néfaste des corps gras et des règles des femmes. Ainsi, chez les Comanches, il arrivait que l'on cachât à 1 kilomètre du camp un bouclier dont la médecine arrêtait les balles, simplement pour éviter que les Indiennes impures, c'est-à-dire réglées, ne passent à proximité de l'objet. Lorsque le guerrier avait besoin de son bouclier, il allait le quérir en décrivant un large demi-cercle, puis pour regagner le campement, il complétait la boucle du côté opposé. Enfreindre les tabous avait parfois des conséquences graves. L'homme à qui les puissances surnaturelles garantissaient une bonne santé pouvait tomber malade, voire mourir, s'il mangeait des aliments interdits. Le guerrier que son protecteur spirituel assistait lors des batailles courait des risques mortels s'il ne remplissait pas toutes les conditions attachées à son pouvoir surnaturel. Voici d'ailleurs ce qui arriva à Néaquilin, un des guerriers Cheyennes les plus réputés des plaines. Un homme médecine du nom de Bison Blanc, qui avait eu la vision d'un bonnet de guerre magique, lui offrit le pouvoir d'être immunisé contre les balles et les flèches. Conformément à tous les détails de sa vision, le sorcier fabriqua donc le bonnet pour Roman Nose, Néaquilin. Il était peint avec des pigments noirs prélevés sur un arbre incendié par la foule. Une unique corne de bison garnissait le devant. Un martin pêcheur décorait la partie supérieure, car cette dépouille avait le pouvoir magique de renfermer les blessures provoquées par les balles, car la surface de l'eau se referme instantanément derrière l'oiseau qui plonge. Une chauve-souris était fixée sur le côté droit. La chauve-souris vole de nuit sans qu'on puisse l'attraper, et le guerrier avait donc le pouvoir de se battre sans risque dans l'obscurité. Lorsque Bison Blanc donna à Néaquilin cette parure, il énuméra divers tabous. Le guerrier ne devait plus serrer la main de personne, ni consommer des aliments puisés dans un plat à l'aide d'un instrument de métal. Néaquilin observa scrupuleusement les divers tabous attachés à son bonnet, lequel agissait apparemment de façon efficace. Bien que l'homme offrit une cible importante, puisqu'il pesait 115 kilos pour 1m93, il pouvait mener des charges contre les tirs les plus puissants et en ressortir indemne. À plusieurs occasions, il caracola comme ça devant les lignes ennemies dont les soldats ne se trouvaient guère qu'à une trentaine de mètres. Juste avant la bataille de Beaches Island, dans le Colorado, que livra en 1868 le 48e régiment d'éclaireurs américains, Néaquilin consomma involontairement des mets puisés dans un plat à l'aide d'une fourchette métallique. Comprenant son erreur, il n'accompagna pas les guerriers lors de leur attaque contre les Blancs. Les soldats étaient armés de fusils à répétition et le combat tourna au désavantage des Indiens, bien que ceux-ci fussent plus nombreux. À cheval, un des Cheyennes rejoignit Néaquilin, qui observait l'engagement de loin. Voilà donc que l'homme dont nous dépendons s'assoit derrière cette colline. Il ne voit donc pas que les nôtres sont en train de tomber sous les balles ennemies. Tous ces gens ont l'impression de t'appartenir. Or, tu es assis derrière une colline. Néaquilin avait conscience de son importance et en tant que chef inspiré, comprenait qu'il ne pouvait assister avec indifférence à la mort de ses hommes. « Je sais que je vais mourir aujourd'hui, » dit-il. Mais cela ne l'empêcha pas de se peindre, de revêtir sa coiffure de guerre et de se lancer à cheval à la tête de ses guerriers contre les positions occupées par l'ennemi. Il se jeta droit sur la ligne des soldats armés de carabines Spencer à tir rapide. Alors qu'il était presque sur les Blancs, une balle le faucha. Après la blessure fatale de Néaquilin, les Indiens se battirent sans conviction et ils amorcèrent leur retraite. Les membres de la bande étaient persuadés que la mort de leur chef n'était pas due à la supériorité du feu ennemi ou à l'aspect insensé de sa bravoure, mais que la véritable cause en était le non-respect des tabous. Leur confiance en de semblables croyances traduisait et confirmait la conviction des gens de la tribu dans le fait que leur religion contenait les explications convenant à toutes les situations et événements survenant dans la vie indienne, qu'il s'agit de la mort d'un guerrier, du déclenchement d'une maladie ou du changement des saisons. Leur croyance détaillait même la création du monde. Pendant les longues soirées d'hiver, les enfants Cheyennes se tassaient à l'intérieur d'une tente, autour du feu, pour écouter un vieil homme leur narrer la création résultant évidemment de l'association d'un esprit surnaturel avec les animaux. Voici longtemps, la terre était recouverte d'eau. Et un être flottait à sa surface. On n'y trouvait que des oiseaux aquatiques, comme les cygnes, les oies et les canards. Voulant créer une terre ferme, l'être interpella le cygne. Plonge dans l'eau et vois si tu trouves le fond. Le cygne dit qu'il allait essayer, mais sa descente fut vaine. Le fond demeurait introuvable. Il remonta et rendit compte à l'être resté à la surface. Le narrateur pouvait facilement enrichir son récit par des dialogues et évoquer les vaines plongées successives des oiseaux aquatiques. Il terminait toujours par la description de l'exploit d'un petit canard revenant à la surface avec de la boue dans son bec. L'être mêla cette boue jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche et la posa au-dessus de l'eau en petits tas. La terre s'étendait et se solidifiait un peu partout. Et ainsi fut créé le monde. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais dire au revoir et merci à Stéphane qui toutouillait les boutons derrière la vitre. Et à vous, je dis comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.